Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David. On te retrouve tout à l'heure après l'émission, comme tous les jours. C'est le moment que vous attendez tous, l'invité du 12-13, le moment d'échange privilégié avec les acteurs du territoire, ceux qui font vivre notre région, c'est-à-dire bien souvent vous-même. Aujourd'hui, nous recevons Alma 40. Alors, c'est Allo Maltraitance, hein, je crois que c'est l'acronyme, on va dire, envers les personnes âgées et les adultes en situation de handicap. Nous avons dans notre studio le docteur Bernard Poc, président de l'association, et Monique Mouton, qui est au conseil d'administration, qui est référente aussi. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bon, on est content de vous recevoir. On va parler de ce problème qui est un problème de société qui ne va pas aller à s'arrangeant, hein, parce que voilà, la population vieillit, elle a des difficultés aussi. Mais on va savoir aujourd'hui qu'il y a des gens aussi qui sont là pour nous aider. C'est une bonne chose. On va découvrir donc votre association et ses actions. Mais on va tout d'abord écouter le flash info national et international. Et ensuite, on atteindra la première partie de cette émission. À tout de suite. Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite présentation personnelle, Bernard et Monique, un peu de votre trajectoire et qui vous a mené ici à ce micro et votre engagement dans cette association, si vous voulez bien. Honneur aux dames. Honneur aux dames.
Merci. Merci de nous recevoir pour présenter notre association dans laquelle nous œuvrons depuis une douzaine d'années maintenant. Moi, j'ai toujours travaillé au centre hospitalier de Dax. J'ai passé toute ma carrière là. Mmh. J'ai occupé plusieurs postes et j'ai fini ma carrière aux affaires juridiques.
D'accord.
Voilà. Et de ce fait, quand M. Poc m'a parlé de cette association, effectivement, j'ai pris attache auprès de lui quand je suis partie à la retraite. Mon engagement à ce moment-là était bien plus possible par le fait qu'on travaillait moins, on était un peu plus disponible. Mmh. Et donc, voilà, depuis 12 ans maintenant, je suis auprès de cette équipe.
Très bien, merci beaucoup. Alors Bernard aussi, vous avez une trajectoire aussi dans le milieu médical ou pas ? Parce que vous êtes médecin, docteur en tout cas.
Voilà, oui, mais ma trajectoire personnelle et professionnelle s'est faite à Dax, au centre hospitalier, et plus spécialement à ce qu'on appelle toujours le LANOT.
Oui.
Le LANOT, c'est-à-dire que j'ai quand même débarqué jeune médecin dans un établissement énorme, de 270 lits, comme on disait, voilà, où il y avait tout à faire. Et donc, petit à petit, avec des équipes hospitalières magnifiques, on a pu organiser la gériatrie, créer la gériatrie sur place.
Ouais. Hein,
c'était une époque où elle naissait. Voilà. Donc, je suis psychogériatre dans mon activité professionnelle, avec les soins Alzheimer qui ont été développés en ce sens.
Mmh.
Et puis je me retrouve au comité éthique du village Alzheimer, qui est une réalisation là aussi tout à fait magnifique,
assez unique, hein,
dont on a parlé ces jours-ci, compte tenu d'une rencontre internationale des villages Alzheimer, franchement. Mais là aussi, il faut que l'État arrive à comprendre, ou veuille tout simplement.
Oui.
En y mettant un peu plus de sous, on a des résultats qui sont merveilleux, et les familles en témoignent, et les patients ont combien.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et bien, on est là aujourd'hui grâce à vous pour, bonjour à toutes et tous, et d'ailleurs au passage, s'il vous plaît, pour parler de maltraitance. Pour parler de maltraitance, et surtout pour dire que plus on en parle, plus on en parlera, moins elle existera ou elle persistera.
Oui, bien sûr.
Hein. On a eu l'occasion d'évoquer les maltraitances en établissement. Bien sûr que ça peut exister. Hein, il est normal d'en parler. Pour que ces établissements puissent lutter contre cet état de fait. Hein, mais et on aura l'occasion de vous en parler plus dans le détail. Mais les maltraitances dans l'enclos du domicile et des familles, c'est le gros problème.
Oui, voilà.
Hein, c'est le gros problème. Et peut-être que parce que par rapport aux maltraitances, on n'y pense pas toujours. Et on peut être témoin de situations curieuses sans réaliser que ce sont vraiment des maltraitances.
Oui, c'est vrai.
La maltraitance, les maltraitances, c'est une espèce de définition simple. c'est toute action ou absence d'action.
Oui.
Le fait de ne pas faire certaines choses, c'est une maltraitance. Hein. Donc c'est toute action ou absence d'action qui entraîne un dommage ou un préjudice. Et ce préjudice, c'est le domaine des maltraitances, c'est pas uniquement donner des coups.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est pas la maltraitance. Elle existe malheureusement, mais ce n'est pas que ça. La plus nombreuse, c'est la maltraitance psychologique.
Oui, bien sûr.
C'est la maltraitance sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan financier, à une personne qui est en état de faiblesse.
Qui peut pas se défendre.
Voilà, il va pas se défendre. Et là. Il y a le maltraité, il est sous emprise la plupart du temps. Voilà. Donc c'est ça dont on veut témoigner auprès de vos auditeurs.
Bien sûr. Alors, quand on parle de maltraitance, vous ne vous concentrez pas uniquement sur les personnes âgées, c'est aussi les personnes qui sont en situation de handicap également.
Bien sûr, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité peut concerner ça. Chacun d'entre nous, on peut, à telle ou telle période, se retrouver vulnérable.
Hein?
Mais y a beaucoup trop de personnes qui sont en vulnérabilité de façon importante et continue. Et c'est elles. Alors, bien sûr, les personnes les plus âgées, et puis celles qui sont avec des situations, un handicap, effectivement, et sans être très âgé.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a
Être très âgé.
Les gens qui peuvent être, par exemple, en tutelle, sous tutelle, ce genre de choses, qui ont du mal à diriger la barque de leur vie, on va dire.
Au combien.
C'est déjà difficile pour les gens qui n'ont pas de handicap. Hein, on est bien d'accord.
Au combien.
Voilà. Et alors. Vous représentez, vous êtes une antenne locale d'une association qui est à l'échelle nationale. Hein, on va en parler un petit peu, qu'on sache qu'on existe, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément que cette structure existe. Vous nous en parlez un tout petit peu.
Alors, donc Alba Carolt a été créée, comme le rappelait Monique, en fin 2012, et on a démarré au printemps 2013. À une époque, donc moi je prenais ma retraite hospitalière. Et le département des Landes, c'était le seul département de la région qui n'avait pas de centre Alma. Donc on a démarré cela. Mais effectivement, on fait partie d'une fédération nationale, la fédération 3177, où il y a 53 centres Alma dans le pays. Et certains centres Alma sont actifs sur un ou deux départements voisins.
Hein,
ce qui fait qu'on arrive à couvrir 75 départements. Donc notre plateforme nationale, c'est actuellement le 3177. Je dis actuellement parce que malheureusement, l'État a décidé de créer une nouvelle plateforme. Et elle vient d'attribuer cette plateforme à une entreprise qui ne sera plus la Fédération 3177.
Oui.
Donc ça, c'est un autre problème.
Oui.
Voilà. Mais les centres Alma vont continuer à exister dans chaque département.
Oui.
Et donc le centre Alma 40... c'est une équipe d'une douzaine de bénévoles. Tout le monde est bénévole, venant du médico-social essentiellement. Hein. Et si vous voulez, on n'a pas les solutions pour les maltraitances, mais on est partenaire avec les principales instances du département, et on est un intermédiaire. Facilitateur.
Oui.
Comme le rappellera Monique dans un moment, par rapport à telle ou telle situation précise, on est là pour écouter, pour prendre en considération ce que le témoin de maltraitance ou la victime nous dit. On fait une synthèse de cette écoute en équipe pour essayer de comprendre. On rappelle, on refait formuler. Et puis, on est là pour accompagner, soutenir. Et on ne contacte nos partenaires qu'avec l'accord de notre appelant.
Oui.
Et s'il veut dans un premier temps rester anonyme, parce que c'est pas facile de parler. Mais nous, on n'est pas un organisme. Nous, on est là pour que des témoins ou des victimes nous parlent plus facilement. On prend le temps.
Bien sûr. Très bien. Oui, alors c'est sûr qu'il y a plusieurs types de personnes qui d'appelants, on va dire, hein, puisque les victimes, d'ailleurs majoritairement, est-ce que c'est plutôt des victimes ou des témoins de victimes qui vous contactent? Parce que je peux imaginer qu'une victime peut avoir du mal ou un ressentiment de honte ou ce genre de choses, ne pas oser faire le premier pas vers l'appelant ou ne pas savoir d'ailleurs. C'est qui va vers vous en majorité, dans la majorité des cas?
Dans la majorité des cas, ce sont quand même des témoins, mais on constate que les victimes appellent souvent. Les victimes appellent souvent.
Oui, bien sûr. Hein.
Mais souvent, ce sont des témoins. Et justement, par rapport, par exemple, au domicile, parce que les maltraitances au domicile sont les plus nombreuses, oui. Dans le contexte familial, mais ce sont aussi des membres de la famille qui sont les premiers témoins, les témoins les plus nombreux à se manifester.
Oui, bien sûr. Ah. Très bien. On va déjà faire notre première pause, une petite pause musicale, puis on va continuer à écouter ce que vous nous racontez, parce que voilà, c'est intéressant. Puis comme vous disiez, ça se passe plus souvent dans les familles, au domicile, que dans les institutions qu'on a pointées du doigt à un moment donné. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même du travail à faire. Quand nos auditeurs nous écoutent, ils pourront en faire leurs conclusions.
Absolument.
Voilà, on se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà de retour. Alors je vais me tourner un petit peu vers Monique. Elle va nous parler un petit peu de comment fonctionnent localement les choses, les rouages de la machine, l'équipe locale, quand il y a un appel, etc. Qui fait quoi?
Alors, nous sommes donc une équipe d'une douzaine de bénévoles. Parmi ces bénévoles, il y a des écoutants. Alors, les écoutants, ce sont ceux qui sont en première ligne, qui sont là pour prendre les appels. Mmh. Ce sont des binômes. Nous travaillons toujours en binôme pour les écoutes, puisque ça facilite et puis ça permet surtout de bien comprendre les appels. Ces appels, nous les avons par... 2 jours par semaine, le lundi, avec les permanences du matin, et le jeudi, où c'est plus spécifiquement travailler sur les dossiers. Mais voilà. Le reste du temps, il y a un répondeur qui permet de prendre les appels et de rappeler éventuellement les appelants. Ces écoutants sont quand même la force de notre association. Alma 40 est une écoute et permet surtout de travailler sur, après pour les référents, qui sont la deuxième partie du dossier. Cette écoute, elle est très importante dans la limite où elle permet de bien comprendre l'appel, de chercher la maltraitance, parce que parfois on nous appelle parce que on est en détresse, mais nous ce que nous devons toujours trouver, c'est est-ce qu'il y a ou pas maltraitance, et pour pouvoir orienter les gens éventuellement dès l'instant où c'est un appel de détresse ou c'est un appel de mal-être et qui n'est pas forcément pour nous la solution à trouver derrière. Ces dossiers ensuite sont confiés à des référents qui, eux, sont là pour activer, pour faire des leviers, pour chercher les solutions, pour aider et accompagner tous les appelants et les victimes, en fait. Ce sont toujours des gens qui sont, après plusieurs appels, à d'autres environnements, qui se retournent vers Alma quelquefois en dernier ressort parce qu'ils n'ont pas trouvé d'écoute ailleurs ou ils n'ont pas trouvé de solution. Et nous sommes souvent le dernier recours de ces gens-là. Et c'est difficile parce qu'ils sont donc souvent avec un besoin de parler, un besoin d'expliquer, un besoin de donner leur mal-être et d'être demandeur d'écoute. Alors on passe effectivement beaucoup de temps à les écouter, à travailler avec eux sur avant de trouver des solutions. Mmh. Alors là, nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous pouvons travailler, le conseil départemental, les assistantes sociales, la PTA, beaucoup de possibilités nous sont offertes pour les aider à trouver des solutions, à trouver des actions à faire pour trouver les solutions. Je peux vous donner, si vous voulez, un exemple.
Oui, bien entendu, oui.
J'en ai sélectionné un que nous avons sélectionné dans notre dernier rapport d'intervention. C'est une dame qui nous contacte au sujet de son fils qui habite la même maison. Sous dépendance alcoolique, il est maltraitant avec elle, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Sa fille, handicapée, subit les mêmes violences. La maltraitance est récurrente. Une autre fille qui vit à distance n'a pas de contact avec ce frère qui fait peur à tout le monde et qui refuse tout soin. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec notre appelante qui est aussi victime, Alma 40 prend plusieurs contacts avec son accord. On a pris contact avec le service social de la MSA, l'assistante sociale du conseil départemental, le médecin traitant et le pôle d'accès aux soins de l'hôpital. Et puis, on s'aperçoit que le fils qui est mis en cause est bien connu pour refuser tout suivi régulier. Et nous avons donc essayé de mettre un accompagnement médico-social. On a aussi pris contact avec la gendarmerie qui connaît la famille. Mais la maman ne veut pas porter plainte contre son fils. Et souvent, c'est le cas, en fait. Donc, on s'est tourné vers la fille qui habite plus loin et qui, elle, pouvait peut-être, de par le contact avec sa maman, essayer de voir quelles étaient les options. Donc, nous avons essayé, avec son accord, d'aller vers une orientation psychiatrique. Mais le fils n'est pas en demande de soins et ne veut pas en entendre parler. Donc, on s'est dit qu'en définitive, dans cette famille, le fils ne voulant pas de soins, c'est la maman qu'il faut protéger. Et pour protéger la maman, on a convaincu la fille qu'il fallait absolument s'occuper de cette dame qui était à bout de force. Donc les infirmières de cette équipe hospitalière ont rencontré notre appelante, qui est particulièrement satisfaite de cette écoute et de cette présence qui vont se poursuivre. Et on a vu que le fils ne changeait pas d'attitude. Son attitude est toujours aussi difficile, toujours aussi conflictuelle. Mais l'accompagnement professionnel a permis à cette dame d'avoir comme une sorte de protection et de le fait de pouvoir parler, de savoir qu'on s'occupe d'elle, de savoir qu'elle va pouvoir aussi arriver le jour où elle sera prête à porter plainte et à se défaire de cette emprise de son fils, l'a beaucoup aidée. Et donc, on vous propose ce dossier parce qu'il met en évidence, en fait, toutes les interventions que peut faire Alma. Et donc, comme disait M. Poc tout à l'heure, notre façon de servir d'intermédiaire facilitateur et d'activer toutes les personnes et tous les services qui sont à notre aide, à notre écoute, et qui permettent justement d'aider à solutionner des cas un peu compliqués, comme celui-là.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple vraiment concret. On voit un peu les rouages. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser un petit peu à la problématique des femmes battues. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Il y a cette emprise et difficulté à en sortir et ne pas vouloir porter plainte. Et on a besoin d'une personne tierce pour s'en sortir souvent dans ces cas-là.
Et c'est ça ce qu'on voit dans les familles souvent, c'est cette emprise qui est compliquée et que les gens sont malheureux mais ne veulent pas aller contre les membres de leur famille et donc restent enfermés dans leurs difficultés.
Bien sûr.
Et ce n'est qu'en parlant et en les écoutant beaucoup que l'on arrive à quelquefois à trouver la solution en fait.
Très bien, merci beaucoup. C'est le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter le flash info local, encore un petit peu de musique. Et on continuera après la mission à tous. Voilà, de retour avec nos invités Bernard et Monique. Donc on parle de Alma 40, on parle de maltraitance. On a parlé de permanence téléphonique, d'appelant. Bah, du coup, ça veut dire qu'il y a un numéro. Donc, on va falloir qu'on communique sur ce numéro.
Alors oui, bien sûr. D'une part, pendant encore quelques mois, il y a le 3977 qui est opérationnel. Et puis notre numéro local. Notre numéro local, bien sûr, il est moins simple. Hein, c'est le 05 58 48 91 43. Mmh. 05 58 48 91 43. Mais on a aussi une messagerie qui est plus commode et où on peut laisser un message et puis on est rappelé. C'est contact@alma40.fr.
Oui.
Alma et 40, ça se tient, .fr. contact@alma40.fr. Alors, je rappelais tout à l'heure que par rapport à la maltraitance, ce qui est important, c'est d'en parler. Mmh. C'est pour cela que quand on est témoin de maltraitance, quand on est témoin de situations qui semblent préoccupantes, il faut en parler. Mmh. Et le code pénal...
Oui, tout à fait.
Il y a même un numéro précis, l'article 223.6 du code pénal, nous invite à parler et à témoigner de toute situation où autrui est maltraité.
Oui.
Et donc là, il y a une espèce d'obligation. Mmh. Hein, d'obligation.
Légalement, oui.
Voilà. Sinon, on est dans la non-assistance à personne en danger.
Oui.
Donc, on invite les témoins de maltraitance à en parler. Et en parler à Alma 40... ça peut être parfois plus simple que saisir directement telle ou telle instance décisionnelle.
Oui.
Alors, c'est l'occasion aussi pour rappeler que les bénévoles d'Alma 40 ont eu une formation préalable à l'écoute et ont des rappels chaque fois que c'est nécessaire. Parce que l'écoute, c'est compliqué.
Oui, oui.
Et nous tenons à avoir une éthique dans notre fonctionnement et dans notre écoute. Je rappelais tout à l'heure la possibilité d'anonymat. Hein, la confidentialité de ce qui nous est dit, c'est précieux pour nous.
Oui, bien sûr.
Et ce que dit l'autre au téléphone, on l'écoute. On n'est pas là pour juger. On est là pour écouter et comprendre. Et ensuite accompagner et soutenir. On ne fait pas la place de ceux qui nous appellent. Parfois, on peut exceptionnellement être appelé à faire à leur place quand ils sont vraiment en grande difficulté, mais on ne fait pas à leur place. Hein ? Et quand il faut, par exemple, préparer, quand c'est nécessaire et justifié, une plainte auprès du procureur de la République, on aide à la rédaction de cette plainte.
Oui.
Et ensuite, on va aux nouvelles. Au niveau de la justice, pour savoir ce que ça devient. Voilà. Donc, les situations de maltraitance, il y en a, il y en aura toujours. Il y en aura toujours.
Oui.
Mais le fait d'en parler, le fait de se faire aider, le fait de se faire accompagner, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup.
Bien sûr. Alors, on parlait là des maltraités, mais alors, les maltraitants, qui sont-ils le plus souvent ? Parce que alors, on reste dans le cadre du milieu à la maison, etc. Est-ce que ça, alors, ça peut être la famille, ça peut être,
bien sûr, ça peut être...
Les aidants, parce que les aidants, des fois, ça peut être aussi des professionnels de santé qui viennent, etc. Qu'est-ce qui est mis en cause le plus souvent quand ils sont conscients de ce qu'ils font ?
Alors, par exemple, pour les professionnels, et bien, il peut y avoir, sans que ce soit volontaire, il peut y avoir maltraitance quand il y a un certain épuisement. Hein. Les établissements nommés EHPAD, dont on a l'occasion de parler, parfois en dénigrant ce qu'ils font, c'est difficile le travail qu'il y a à faire. Hein. Il peut y avoir parfois, oui, bien sûr, telle ou telle maltraitance. Mais le plus souvent, c'est une maltraitance institutionnelle. Institutionnel.
Oui, oui.
J'évoquais le village Alzheimer qui donne des résultats pour les résidents et les familles exceptionnelles. Et je dis bien exceptionnelles.
Oui.
Mais le ratio est de 1 pour 1. C'est loin d'être le cas dans les établissements autres qui accueillent des personnes âgées. Et effectivement, actuellement, ces établissements-là sont en difficulté. Donc, il peut y avoir maltraitance par épuisement. Vous voyez ?
Par manque de moyens.
Et oui, manque de moyens à tout point de vue.
Oui.
Et puis, dans les familles, eh bien sûr, il peut y avoir des relations. Vous parlez des aidants. Pareil, les aidants. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Alors, ils commencent à être reconnus par l'État, les aidants. Mais les aidants, il ne faut pas qu'ils restent seuls.
C'est ça, oui.
Il faut qu'ils se fassent eux aussi aider.
Oui,
sinon, sinon, bien sûr qu'ils deviennent maltraitants.
Oui.
C'est pour ça qu'on est parfois confronté à des situations au domicile qui sont impressionnantes.
Oui. Et puis tout le monde souffre dans l'histoire. Hein. Les aidants et l'aider, tout le monde souffre.
Et puis personne n'est au courant.
Oui, c'est vrai. Oui.
Voilà.
Mais quelquefois, le maltraitant, il n'est même pas conscient qu'il est maltraité.
Mais non. Mais non.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est possible, effectivement, en regardant un peu votre documentation et en vous écoutant. On peut être maltraitant sans le savoir, par négligence.
Et en étant déjà en souffrance, lui-même. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que, moi, je me permets d'insister, ceux qui sont témoins de situations de cet ordre-là, il ne faut pas qu'ils le gardent pour eux.
Oui,
il faut en parler. 05 58 48 91 43.
Très bien. Oui, alors d'autant plus qu'on peut se poser la question, on peut se dire, j'exagère, peut-être que j'ai tort, etc. Mais alors, l'avantage de pouvoir appeler quelqu'un comme vous, c'est justement, on va tomber sur quelqu'un qui connaît le sujet, qui va dire, qui a une compétence voilà, sur ce sujet-là, qui va pouvoir diagnostiquer un petit peu la maltraitance et se dire, oui, il y en a une, ou non, il n'y en a pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Plutôt que directement, je ne sais pas, on pourrait dire, je vais appeler la police, par exemple, ou faire une demande courante, que sais-je. En passant par vous, on a aussi l'assurance de tomber sur quelqu'un qui est compétent sur cette problématique et qui, elle, pourra décider s'il faut ou non donner suite et de quelle manière. C'est ça votre force.
Oui, parce que en fait, c'est un travail d'équipe. Le travail des écoutants, on en a parlé tout à l'heure, est un travail très très important. Mais ensuite, nous échangeons. Les écoutants, les référents, on se réunit très régulièrement pour parler des dossiers, pour échanger, pour comprendre quelquefois les situations qui sont difficiles, et surtout pour avec les compétences des uns et des autres, puisque nous sommes quand même des équipes pluridisciplinaires, mieux comprendre et mieux étudier toutes ces situations souvent préoccupantes et souvent difficiles. Et quelquefois, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la façon de faire et de nos échanges, souvent, sortent des solutions. Et ça nous permet à tous, nous, de mieux comprendre et de nous épauler les uns les autres et de sortir de cette situation quelquefois très embarrassante.
Oui. Encore une fois, la parole. Voilà, toujours la parole.
Toujours la parole. Toujours la parole. Toujours.
Et on va faire notre dernière pause et on va attaquer la dernière partie de cette émission. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. On va parler de vos besoins, parce que vous en avez des besoins, parce que pour pouvoir aider les gens, vous avez besoin d'être aidé aussi, notamment des bénévoles, on en a parlé, ça, parce que ça, c'est... faut profiter de ce micro ouvert pour faire un appel aux auditeurs.
Eh bien, merci à vous. Bien sûr qu'on a toujours besoin de bénévoles. Et effectivement, si parmi vos auditeurs, il y a certaines personnes qui seraient intéressées à prendre contact pour voir quelle action de bénévole ils pourraient avoir dans notre association... ils sont les bien volontiers, par notre numéro de téléphone, par le numéro de mail que je viens de donner et qui sera et qu'on redonnera en fin d'émission, bien sûr et bien volontiers. Et si vous voulez, pour être bénévole à Alma, on a évoqué bien sûr les parcours professionnels que l'on peut avoir et qui sert. Et cela sert, mais c'est aussi pour des personnes qui... C'est une capacité d'écoute. Les personnes qui ont une capacité d'écoute et qui ont envie d'être utiles dans la lutte contre les maltraitances, ben elles sont les bienvenues.
Bien sûr.
Elles sont les bienvenues. Et c'est aussi l'occasion pour rappeler et remercier tous nos partenaires départementaux, parce que, une fois de plus, Alma 40, nous n'avons pas la solution contre les maltraitances. Mais on est là pour aider. Et même si le 3177 disparaît d'une certaine façon en début d'année prochaine, nous continuerons. Nous continuerons parce que nous avons des liens avec les instances départementales, avec le conseil départemental avec qui nous travaillons souvent. Nous avons une référente, une correspondante. Mmh. Hein. Il en est de même pour l'UDAF. C'est important, l'UDAF, avec
les gens qui sont sous
les différentes tutelles et curatelles. Oui. C'est extrêmement important.
Tout à fait.
Nous avons une correspondante à la préfecture, à la direction qui s'occupe de ces choses-là. Nous avons aussi une correspondante à la gendarmerie.
Oui.
Et ça, c'est extrêmement important.
Bien sûr.
Et j'en profite pour souligner tout le travail qui est fait par les gendarmes en ce domaine.
Oui, hein.
C'est-à-dire que nous, quand on a besoin d'avoir un contact avec la gendarmerie, on passe par cette correspondante.
Mmh.
Et c'est extrêmement efficace.
Oui.
Et aussi, prochainement, je vais reprendre contact avec la maison de protection des familles,
voilà,
qui est gérée par la gendarmerie.
Mmh, tout à fait.
Hein, pour qu'on envisage ensemble ce qu'on pourrait faire comme sensibilisation.
Oui, tout à
parce
fait,
qu'Alma
oui.
40 fait aussi des sensibilisations à la maltraitance pour les professionnels ou pour les professionnels en formation, mais à la demande des établissements. Hein, à la demande des établissements, on peut faire une démarche pour sensibiliser, pour parler de maltraitance.
Mmh.
Et là aussi, ce n'est pas pour juger les difficultés qu'il y a, mais pour en parler et pour voir comment on peut, même s'il y a difficulté, aller de l'avant.
Mmh.
Hein? Et ça, c'est très important. Bien sûr, la délégation de l'ARS est contactée chaque fois que nécessaire.
Mmh.
Et puis par ailleurs, je suis personnellement sur la liste des personnes qualifiées. Donc là aussi, on a des contacts. Tout ceci, c'est pour aider, soutenir, et que la personne, en particulier âgée, en difficulté, ne soit pas malmenée ou maltraitée inutilement. Voilà. Alors, on est partenaire avec, bien sûr, France Alzheimer, ça va de soi, la DAVEM, bien sûr, la Ligue des droits de l'homme.
La Maison du handicap. La Maison du handicap.
Ah, mais la Maison du handicap, ça fait partie de... Oui, du conseil départemental, tout ça, oui. Voilà. Donc... ce qui est important, c'est de continuer à s'organiser et à se coordonner pour que la maltraitance ne reste pas dans le silence.
Bien sûr, très bien. Alors au niveau actualité, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, une intervention, quelque chose, et dans les projets à court ou moyen terme de votre association ?
Ah ben, dans l'actualité, il y a la décision de l'État de ne pas retenir la Fédération 3177 pour la nouvelle plateforme.
Mmh.
Donc, comme je viens de le rappeler, localement, nous verrons avec les autorités départementales on peut continuer à être utile.
Mmh.
Et voilà, on est en train de... il va falloir se réorganiser.
Oui, hein,
il va falloir se réorganiser. Il ne faut pas que les... ceux qui ont l'habitude d'appeler le 3177 se trouvent plus ou moins en difficulté. On n'en sait rien. Hein. La plateforme qui va reprendre n'aura peut-être pas la même façon de fonctionner.
Oui, bien sûr, je comprends bien. Et voilà, en tout cas, on a compris que vous serez là, vous occupez le terrain.
Ah, nous, on a l'intention de continuer à être là.
Oui, oui, très bien.
C'est notre motivation de citoyen.
Tout à fait.
Tout simplement.
C'est très bien.
Tout
alors,
simplement.
Je fais juste une petite parenthèse avant de mettre fin à cette émission. Je veux rappeler qu'on avait reçu trois formidables femmes, gendarmes de la Maison de protection des familles, dans notre studio de Soustan. Voilà, et je les avais trouvées vraiment émouvantes et touchantes de leur engagement, de ce qu'elles font, la difficulté de la tâche qu'elles accomplissent. Ça fait plaisir de voir ça. Et puis, voilà, on pense aux gendarmeries, on pense toujours aux répressions. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venus tous les deux nous parler de votre engagement, de votre quelque chose qui est important, parce que ça finira par toucher un peu tout le monde. Donc forcément, voilà, c'est rassurant de savoir que vous êtes là. Et donc, on transmettra le message et vos coordonnées pour que les gens puissent vous contacter.
Merci à vous. Surtout, merci à vous.
Merci.
Et on compte sur vos auditeurs pour qu'ils reprennent contact et qu'ils prennent contact avec nous quand ils en ont envie.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés et nous avoir permis de nous exprimer.